Tech & Co, la quotidienne, l'invité.
Et j'accueille Alexandre Sabounjian. Bonsoir Alexandre.
Bonsoir.
Vous êtes le directeur général de Winamp.
Exact.
Alors pour les plus jeunes, Winamp, ça ne veut pas dire grand-chose, je suis désolé. Mais pour plus âgés comme moi, c'était quand même le lecteur multimédia, l'un des tout premiers lecteurs multimédia MP3, qui était sympa, plug and play, qui nous permettait à l'époque d'écouter des MP3.
Voilà. 97 au siècle dernier.
97.
C'est vraiment le lecteur qui a fait découvrir à tout le monde le MP3.
On pouvait customiser aussi son lecteur, suivant ses goûts, etc.
Avec tous les skins et toutes les petites choses.
On a des chiffres sur l'époque, c'était monstrueux en fait.
Alors,
avait le lecteur Winamp.
À l'époque, c'était une start-up américaine qui s'est rapidement fait racheter par AOL.
Oui.
Et il y avait à l'époque jusqu'à 200 millions d'utilisateurs. Alors ce logiciel aujourd'hui est toujours utilisé par les gens qui utilisent Windows.
Donc Winamp, le lecteur, existe toujours.
C'est un des logiciels encore les plus téléchargés par les utilisateurs de Windows. Et on a encore aujourd'hui entre 50 et 80 millions d'utilisateurs chaque mois.
Alors avant d'expliquer justement cette différence de point de vue qu'il y a entre la vôtre et celle de Nvidia, pour rester poli, expliquez-nous ce qu'est aujourd'hui devenu Winamp. Parce que, évidemment, vous avez pivoté, le modèle a évolué, etc. Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui ?
Alors, un lecteur, c'est pas vraiment un produit avec lequel il est facile de faire du chiffre d'affaires, sauf si vous mettez des marketplaces, sauf si vous faites des abonnements comme le fait Spotify. Et donc, lorsqu'on a voulu redonner une nouvelle vie à Winamp, on a regardé ce que la musique allait être demain. Et pour nous, la musique demain, ce seront des artistes qui seront de plus en plus indépendants, qui vont gérer leur carrière eux-mêmes, mais qui doivent naviguer dans une difficulté dans ce nouveau monde digital, qui est bien différent de celui du passé. Et donc aujourd'hui, Winamp est devenu une plateforme pour les artistes indépendants qui fédèrent l'ensemble de leurs revenus. Des revenus aujourd'hui, quand on est artiste, on en reçoit de YouTube, de Spotify, de plein de plateformes, mais qui aussi donnent un certain nombre d'outils marketing pour que la vie des artistes soit plus facile.
En gros, bon, alors, si je suis Beyoncé, je vais pas aller sur Jamendo,
exactement,
parce que ça s'appelle Jamendo, hein.
Ah non, c'est Winamp. Jamendo est une filiale.
C'est une filiale de Winamp.
Qui vend, à ce moment-là, des chansons dans le cadre d'un usage commercial pour apporter un nouveau type de revenu à l'artiste.
D'accord. Donc, je termine ma réflexion, hein, pour qu'on comprenne bien ce que vous faites. C'est, je suis artiste, débutant ou confirmé. Mm-hmm. Je veux créer ma propre distribution. Je passe par vous, c'est ça? Mm-hmm. Et vous allez me mettre en avant, c'est ça?
Alors, moi, je vais vous donner tous les outils pour vous mettre en avant. On va essayer de faciliter votre vie. Et en tout cas, on sait que l'ADN des artistes, c'est plutôt créer que gérer. Mm-hmm. Donc, nous, notre travail, c'est...
Mais après, il y a des gens qui viennent écouter des chansons sur Winamp?
Alors, aujourd'hui, on ne s'est jamais présenté comme étant une plateforme réelle de diffusion. Ça le sera peut-être plus demain.
Oui.
Mais nous, notre but, c'est d'essayer que cette musique soit diffusée partout et pas uniquement dans l'univers de Winamp.
On attaque le dur maintenant. Mm-hmm. Vous l'avez annoncé en ce début de semaine, vous attaquez en justice Nvidia pour l'entraînement de l'IA de votre catalogue musical. Alors expliquez-nous pourquoi cette posture dans ce contexte où aujourd'hui c'est vrai que l'IA absorbe tout. Et pourquoi Nvidia? Pourquoi pas OpenAI, Anthropic, etc.?
Donc, en effet, c'est dans le cadre d'une société qui s'appelle Jamendo, qui possède un catalogue aujourd'hui de musique qui provient d'artistes. Il y en a près de 80 000 qui ont décidé de nous confier leur catalogue pour commercialiser la musique lorsque vous utilisez une musique dans un usage commercial. Un film sur YouTube, une publicité sur votre site web.
Donc, c'est pas encore une fois des stars de la chanson, etc.
De nouveau.
Ce sont des musiciens, des artistes.
Exact.
Qui...
Ils viennent de 112 pays dans le monde. Donc, enfin...
Ils sont plus modestes, je veux dire...
tout à fait, mais aujourd'hui, ça leur rapporte souvent un revenu récurrent. Et lorsque vous apportez 300 euros tous les mois à un artiste... d'Amérique du Sud, c'est un vrai revenu.
Ça met du beurre dans les épinards, en effet.
Et donc, on a participé à un projet technologique avec l'Université de Barcelone en 2021, financé par la communauté européenne. Et ce projet universitaire avait pour but d'apporter des tags à la chanson. Aujourd'hui, lorsque vous utilisez une chanson, vous connaissez le titre, l'artiste, l'année, peut-être le genre, mais ces informations ne sont pas suffisantes et nécessaires pour que la chanson soit bien référencée et qu'on puisse trouver les chansons dans un large catalogue. Et donc, on a fait ce travail et on a créé des outils d'automatisation qui permettent de créer 180 tags nouveaux. Et c'est donc des informations qui sont attachées à la chanson.
Et ça, ces tags se créent automatiquement quand la chanson est diffusée ou c'est rempli à la mano ?
Alors, une partie est remplie à la main, est complétée ou vérifiée à la main, mais la plupart des tags sont faits en effet de manière automatisée.
D'accord.
Où on analyse le spectre,
le rythme,
le rythme,
la voix,
les instruments dominants, la positivité du morceau.
Okay. Donc de la data, de beaucoup de data, liée à chaque chanson.
Liées à chaque chanson.
Ça, c'était en 2021.
Donc, ces travaux ont été publiés sur GitHub, qui est l'endroit où tous les développeurs partagent de l'information. Mais ces travaux étaient vraiment un caractère universitaire, académique, et ces travaux n'étaient pas destinés à des sociétés commerciales. En 2024, nous avons appris par des artistes qu'apparemment NVIDIA avait utilisé ce dataset pour entraîner le premier étage de software qu'ils utilisent dans leur matériel pour traiter...
Coda l'IA. C'est Coda
Fugato.
Ou
c'est... Fugato,
ah,
voilà.
D'accord, okay.
Donc c'est un étage... Parce que lorsque vous achetez du matériel NVIDIA, vous achetez le matériel, vous achetez également...
Oui, tout un écosystème
software. Un écosystème,
software,
exactement.
Mais je ne savais pas qu'ils s'entraînaient en récoltant de la data. Je pensais que c'était OpenAI qui faisait ça. Anthropic, Google, enfin voilà.
Mais OpenAI ou Anthropic vont faire leur partie software, mais qui doit communiquer évidemment avec la couche software
de
NVIDIA. Et donc on a constaté cela, donc c'était clairement interdit par rapport aux licences qui avaient été déposées, et puis on est rentré...
Mais NVIDIA l'a fait sans vous demander quoi que ce soit, ils l'ont fait de manière, comment dirais-je, un peu à la hussarde, quoi.
À la hussarde, alors ce qu'on a...
Mais est-ce que vous en êtes sûr de ça ? Comment on arrive à savoir... Alors, NVIDIA a pompé votre catalogue.
Alors c'est flagrant parce que on a récupéré des documents sur le site de NVIDIA qui expliquent comment ils ont entraîné cette partie d'intelligence artificielle, et notre dataset est dans les datasets qu'ils ont utilisés.
C'est-à-dire que tous les tags dont vous parliez tout à l'heure, pour chaque chanson, sont sur le site de NVIDIA, c'est ça ?
Ils expliquent qu'ils ont entraîné leur moteur pendant plus de 3500 heures avec 55 000 chansons de notre catalogue dans le but de créer leur premier étage.
Mais ils citent votre catalogue ?
Oui, tout à fait.
Ah d'accord, donc ouvertement,
oui, bien sûr.
Ils le disent. Bon, j'imagine que vous avez passé un coup de fil à l'équipe de NVIDIA quand même.
Alors oui, évidemment, on a essayé de rentrer dans
un dialogue
constructif. Il ne faut pas oublier que le métier de Jamendo, c'est de vendre des licences.
Oui.
Et donc, nous, on n'est pas du tout opposés à l'intelligence artificielle.
Mais qui est un modèle économique.
Voilà, c'est un modèle économique. Et nous, ce qu'on essaie, c'est d'apporter du revenu à l'artiste. Et donc, ce dialogue, malheureusement, n'a pas abouti. Et donc, on est évidemment passé dans une autre...
Mais il n'a pas abouti parce que NVIDIA ne vous a pas écouté, ou alors il botte en touche. C'est quoi le...
Alors les discussions ont eu lieu l'été passé. Et l'été passé, lorsque vous regardez un petit peu l'histoire de l'IA, on était encore dans l'apprentissage libre, les choses doivent se partager gratuitement. Depuis, dans le monde de la musique ou ailleurs, plusieurs jugements aux États-Unis ont quand même montré que le contenu doit se payer, doit se rémunérer. Alors peut-être que le modèle aujourd'hui, il n'est pas établi. Mais la data gratuite.
Donc là, vous demandez quoi ? En fait, il y a une juste rétribution.
Voilà. Donc aujourd'hui...
pour vous et pour les artistes.
Exactement.
Suite, on va dire, à l'aspiration de tout ce contenu que vos artistes ont créé par NVIDIA, c'est ça ?
Alors ce qui se passe, c'est que notre database aujourd'hui a été déposée aux États-Unis auprès du Copyright Office américain. Et donc est protégée aujourd'hui par le Copyright Act américain qui détermine les dommages en cas d'usage illicite de la database. Et ça, c'est tout le conflit que l'on a aujourd'hui devant la cour californienne avec NVIDIA.
Bon, en tout cas, on va suivre évidemment les évolutions de ce procès. Merci beaucoup d'être venu dans Tech & Co sur BFM Business, Alexandre Saboudjian, pour nous expliquer tout ça. Vous êtes le directeur général de Winamp. Merci.
Merci.